EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Vers l'âge de 5-6 ans à peu près, qu'il a commencé à vivre une nouvelle perspective dans la souffrance, c'est-à-dire que j'ai commencé à vivre des abus sexuels de la part d'hommes autour de notre famille. Et il y en avait plusieurs. Et dans ma tête de petite fille, je pensais que c'était assez normal. Mais comme personne n'en parlait, et puis surtout qu'on m'avait dit de rien dire, je pensais vraiment que tout le monde vivait ça. Mm-hmm. Toutes les petites filles, en fait, vivaient la même chose. Mais que c'était acquis qu'il ne fallait pas en parler, qu'on n'en parlait pas.
Bonjour à toutes, bienvenue dans la table avec Annabelle. Et pour terminer cette semaine, eh bien nous terminons avec un témoignage, un très beau témoignage de ce que Dieu a fait dans une vie. Et nous sommes avec Hélène, je vais pas tout vous raconter, elle va elle-même nous raconter son histoire de la bonté et de la fidélité de Dieu. Mais en tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est que il n'y a aucune vie qui a pu être trop abîmée pour que Dieu ne puisse pas la transformer. Et ça, c'est le témoignage d'Hélène. Alors bonjour. Bonjour à toi Hélène et bienvenue sur À table avec nous, avec Aurélie et Stéphanie. Bonjour les filles.
Bonjour Annabelle.
Bonjour Hélène.
Bonjour, bonjour. Donc, je suis très honorée d'être là, c'est un plaisir.
Tu veux dire bonjour à ta maman?
Profite-en.
Oui. Sa maman nous suit, et sa maman a suivi MCI depuis des années.
Okay. Donc, elle participe depuis le début, alors elle vous passe le bonjour.
Non, elle méritait un bonjour, maman. Tu vois, voilà.
Comment elle s'appelle?
Michel.
On salue Michel.
Donc Hélène, moi j'ai lu ton histoire avec toutes sortes d'émotions, à vrai dire. Et une chose qui m'a frappée à titre personnel, c'est que on a grandi finalement dans les mêmes années, dans le même coin, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et je me dis, moi, dans mon enfance, jamais j'aurais imaginé que tu pouvais avoir une petite fille de ton âge qui vivait cette vie-là tragique à quelques kilomètres. À quelques kilomètres. Mais on se retrouve des années plus tard, qu'on se soit jamais trouvé à l'époque, parce qu'on ne se connaissait pas. Et à raconter ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Aujourd'hui, tu es mariée et tu as deux enfants. Mais on va revenir à la petite enfance, dès très jeune, en fait, finalement. Toi, vers l'âge de 5 ans, 6 ans, ta vie est déjà différente de la plupart des autres petites filles.
Oui, c'est ça. Malheureusement, dans ma famille, c'était très compliqué. Mes parents, déjà à un an, se sont séparés et mon père qui était alcoolique, violent, déjà mon climat était déjà très compliqué et j'avais déjà appris qu'on n'en parlait pas de ces choses-là en dehors de la maison, ce qui fait qu'à l'école j'en parlais pas spécialement et c'est vers l'âge de 5-6 ans à peu près qu'il a commencé à vivre une nouvelle perspective dans la souffrance, c'est-à-dire que j'ai commencé à vivre des abus sexuels de la part d'hommes autour de notre famille. Et il y en avait plusieurs. Et dans ma tête de petite fille, je pensais que c'était assez normal. Mais comme personne n'en parlait, et puis surtout qu'on m'avait dit de rien dire, je pensais vraiment que tout le monde vivait ça. Toutes les petites filles, en fait, vivaient la même chose. Mais que c'était acquis qu'il fallait pas en parler, qu'on n'en parlait pas. Donc voilà, ma vie était comme ça, mais je la vivais pas. En fait, je veux pas dire que je la vivais pas mal, mais pour moi c'était normal. Ouais. Voilà, c'était comme ça qu'on vivait.
Ouais. Il y avait pas. Et là, on te voit. T'as quel âge environ sur ces photos-là?
Alors là, j'ai à peu près 5-6 ans sur les deux photos extérieures et celle du milieu, je crois que je dois avoir 7-8 ans.
Ok, donc déjà ces photos-là, t'es déjà rentrée dans un cycle d'abus assez régulier. Mmh. On voit, t'es toute mignonne, t'as l'air d'une petite fille toute innocente. Et pourtant, derrière cette insouciance, au final, des photos, il y a vraiment toute une vie sombre Mais est-ce que tu as des comportements qui sont anormaux? Est-ce que tu as des attitudes qui peuvent peut-être éveiller l'intérêt des profs aussi, de tout ça?
De mon point de vue, j'ai pas l'impression. Non, vraiment, j'ai pas l'impression. Je pense que. En fait, je pense que je vis dans une espèce de déni. Quand je suis à l'école, j'ai l'impression que. En fait, c'est une autre vie. Okay. Et là, je prends un autre rôle. J'ai mon rôle comme public de petite fille ou qui est comme les autres ou pas. Tout va bien, mais par contre, ce qui se voit, c'est que je prends du poids. Okay. J'ai pris beaucoup de poids et quand j'étais petite, j'étais beaucoup raillée à cause de ça parce que à l'école, je prenais du poids, je mangeais mes émotions, quoi. Mm-hmm. Je pense que c'était la seule chose qu'on aurait pu peut-être voir de l'extérieur, parce que moi, j'en parlais pas, bien sûr. Et puis, j'ai essayé de faire comme tout le monde rigolait, on jouait à des jeux, je suivais.
T'étais épanouie, entre guillemets, au dehors, à l'école notamment.
Oui, c'est ça. Et puis, je crois que quand on vit dans un climat de violence constant, c'est un peu la norme. On connaît pas autre chose, en fait, donc c'était normal, quoi, pour moi.
Je voulais te demander aussi, est-ce que quand on parle d'abus répétitifs, de quoi on parle en fait?
Alors moi, les abus, en fait, il y a les abus sexuels, mais j'ai aussi vécu beaucoup d'abus psychologiques et tout ça, de maltraitance avec mon père. Mais les abus sexuels, c'était vraiment par vague. En fait, il y avait pas de, des fois c'était beaucoup. Il y avait plusieurs. Hommes qui me sollicitaient et je savais pas trop pourquoi ni comment, mais c'était comme ça. Puis des fois, plus rien du tout. Donc, en fait, je vivais ça comme ça. Puis après, quand mes parents étaient vraiment séparés, divorcés, mon père est parti vivre dans une ville plus loin, donc en Bretagne, à Rennes.
Encore, on a vraiment gravité.
et donc, du coup, le juge a statué que je devais passer un week-end sur deux et les vacances chez mon père. Et donc, quand j'étais chez mon père, je ne vivais pas cette forme d'abus-là, mais je vivais une autre forme d'abus, puisque lui, il me maltraitait, il était maltraitant. Et puis, quand j'étais vraiment chez ma mère, que je vivais ces abus-là sexuels. Et ce qui fait qu'en fait, je n'étais jamais tranquille.
Okay.
C'était soit l'un, soit l'autre, et ma vie se déroulait un peu comme ça, quoi.
À quel âge tu t'es rendu compte que c'était pas normal?
Je pense que petit à petit, j'ai compris. Je pense pas qu'il y ait eu un déclic à un moment, mais je pense que petit à petit, j'ai compris que ce que je vivais, c'était quand même pas ce que les autres vivaient. Et ça s'est fait petit à petit, et arrivé à l'adolescence, vers 10-12 ans, là, vraiment, je savais que ce que je vivais, c'était pas normal. Et sauf que du coup, je savais plus comment faire pour en parler. Je savais pas trop vers qui me tourner non plus. Ma maman, elle était... en souffrance déjà de son côté, parce qu'elle avait vécu aussi les violences. Et puis, elle se débrouillait toute seule. Du coup, là, elle était mère célibataire avec ses enfants. Donc, je ne voulais pas lui en rajouter non plus. Et puis, du coup, j'ai gardé ça pour moi. Et puis, ça s'est arrêté à 12 ans. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi faire du mal autour de moi? Je ne savais pas trop comment raconter ça non plus. Donc, en fait, j'ai gardé ça pour moi. Et puis, quand j'avais 5 ans, je me suis convertie. Parce que ma maman, du coup... était vraiment en quête spirituelle très forte après le divorce. Et elle m'a emmenée dans plein d'endroits un peu étranges. on tape sur des gongs, on fait des...
Ah ouais, c'était une vraie quête spirituelle.
Oui, vraiment. Elle a vraiment bien cherché. et moi, je suivais. Mais mes frères qui avaient 10 ans de plus, eux, ils avaient dit non, je ne suis pas. Mais bon, moi, je n'avais pas trop le choix, donc je suivais. Et donc, des fois, je me retrouvais dans des endroits, dans des fermes où ils faisaient des réunions comme ça. Et nous, on était entre enfants et c'était... Moi, j'aimais bien ces week-ends-là. J'étais avec les enfants, on s'amusait. Et puis, un jour, elle m'a emmenée dans une réunion donc sous une tente. Donc, c'était des zigans évangéliques qui s'étaient réunis sur la plage, là. Ils avaient monté une tente. Et au moment où, moi, je rentre dans la tente pour aller voir ma mère, parce que dehors, il commençait à faire nuit, et puis je voulais retrouver les adultes, là. En fait, je sens qu'au moment où je rentre dans cette tente, là, je sens la sécurité, je sens la paix, je sens l'amour, quelque chose que vraiment j'avais jamais ressenti comme ça. Et en fait, je cours vraiment vers ma mère en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est ?» Elle elle me raconte plein de choses que je comprends pas parce que j'avais 5 ans là. Et en fait, mais ce que je comprends, c'est que c'est Dieu, c'est que c'est Jésus qui est là. Et là, vraiment, je sens que parmi tous les autres endroits où j'ai été, là, ça, c'est la vérité. Et donc, à ce moment-là, vraiment, avec tout ce que j'ai vécu après, parce que là, les abus sexuels n'avaient pas encore commencé, mais en fait, c'est comme Dieu était avec moi tout le temps. Et je sais que c'est compliqué de dire ça, parce que les abus ont quand même eu lieu, mais c'est comme s'il résonnait moins fort, en fait, en moi. C'est comme si, et puis, il y a eu des moments, vraiment, où je sais que j'étais vraiment... Ma vie était en danger, et je sais que Dieu m'a sauvée. Je sais que Dieu m'a sortie plusieurs fois... où ma vie vraiment est en danger, où j'ai failli mourir. Une fois, mon père a mis le feu à la chambre où je dormais. Enfin, il y a eu plein de moments où vraiment, je sais que j'aurais pu mourir. Et de façon miraculeuse, je sais que Dieu a agi. Et donc ça, ça a été un tournant dans ma vie, quand même.
Et pendant toutes ces années où t'as vécu des abus, est-ce que tu priais ?
Oui, je priais. C'est ça qui était... En fait, moi, j'avais vraiment ma vie avec Dieu. C'est comme c'était mon ami imaginaire, là, Jésus. Il était tout le temps. D'ailleurs, mon père supportait pas du tout quand j'allais. Moi, je l'évangélisais du haut de mes 6 ans. Et c'était terrible. C'était vraiment les représailles étaient terribles. Mais moi, c'était vraiment. C'était vraiment le soir, je lui remettais ma vie, ma journée. On discutait, on avait des grandes discussions sur tout ce qui se passait justement dans ma vie. Et puis. Je pense vraiment que ça m'a vraiment aidée à vivre ma vie. Quoi. Oh, wow.
Et tu n'avais pas de colère ou de sentiment d'injustice pendant toutes ces années à lui dire mais t'es où ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ça m'arrive ?
À ce moment-là, pas tellement. Parce qu'en fait, je crois quand on est enfant, on a une forme d'insouciance. Là. On vit la vie comme elle vient. Quoi. On ne réfléchit pas, enfin, moi en tout cas, je ne réfléchissais pas tellement au pourquoi et à tout ça. C'est plus tard vers l'adolescence où là, j'ai commencé à dire, mais en fait, pourquoi tout ça m'arrive alors que je te connais, alors que tu me protèges, alors que tu es là et c'est là où j'ai commencé, parce qu'il y avait quand même les blessures qui étaient là. Toutes les humiliations, toute la souffrance, la violence. Et à l'adolescence, c'est là où vraiment ma colère, elle est devenue vraiment concrète. Où là, j'ai commencé à la retourner contre moi, à vivre anorexie, boulimie, à être vraiment en colère, même après tout le monde. Là, c'est devenu... Déjà, l'adolescence, on sait que c'est pas une période facile, mais en plus, là, toute la colère, vraiment, est en train de s'activer en moi. Toute l'injustice, parce qu'on sait que la colère, elle vient de l'injustice. Et là, vraiment, plus j'avançais dans ma vie, plus... vraiment, je comprenais pas. Et pour moi, c'était injuste. Qu'en plus, moi qui connaissais Dieu depuis toujours, je comprenais pas. Je pouvais pas poser de mots. Et malgré tout, je voulais pas être en colère contre Dieu.
Okay.
Donc du coup, j'étais en colère contre tout le monde, sauf Dieu. Mais je le manifestais pas parce que, en fait, c'était très intérieur. Parce que je voulais pas faire souffrir ma maman, qui faisait déjà tout ce qu'elle pouvait. Donc je gardais vraiment tout ça, mais ça me rongeait.
Ça te rongeait, ouais.
C'était terrible. Ouais.
Et c'était quoi ton regard sur les hommes à l'adolescence ?
C'était pas positif. C'est très récent que j'ai un regard positif sur les hommes, en vérité. Okay. Parce que, encore à l'adolescence, pour moi, un homme pouvait être que... il pouvait se dégager que du mal. Il n'y avait pas d'homme qui était bon. En tout cas, j'en connaissais pas. Et c'était pas une question que je me posais, en fait. Moi, dans mon imaginaire, je me disais pas, plus tard, je vais me marier, j'aurai des enfants. C'était pas... Pour moi, fallait fuir un peu les hommes et essayer de faire sa vie au mieux. Voilà. Pour moi, l'amour, c'était pas auprès d'un homme qu'on le trouvait.
Okay.
C'était auprès de Dieu, auprès d'une maman. Mais pas... j'imaginais pas une vie épanouie avec un homme, quoi, plus tard. Non.
Ok. Et donc, on avance là un peu dans le temps. Je pense que tu as 18 ans, ouais. Quand tu planifies de te suicider,
Ah, j'ai 16 ans.
C'est 16 ans. 16 ans, tu planifies de te suicider. Ouais. Alors là, c'est une période qui est à la fois qui est spéciale parce que tu vas nous le raconter, mais dans notre idée normale, le suicide, bah, c'est quand même une période très sombre, très noire. Mais alors toi, non, pas. Tu planifies avec beaucoup de sérénité.
Oui, complètement. Pour moi, c'est une solution. Moi, je vois... En fait, je pense que je suis tellement arrivée bas dans mon estime de moi, dans... la place que j'ai dans la vie, etc., que je me dis, en fait, je pense que Dieu a fait une erreur avec moi et je ne devrais pas être là, parce que sinon, ma vie ne serait pas comme ça. Mm-hmm. Et je pense que je vais arranger tout le monde en quittant ce monde. Je vais juste rétablir l'ordre qui aurait dû être depuis toujours. Et donc, en fait, moi, je le vis assez sereinement. Et même quand je pense à ma mère et tout ça, je me dis, elle va être triste sur le coup, mais ensuite, elle va comprendre que c'est mieux pour elle.
Okay.
Donc en fait vraiment pour moi c'est pas des idées noires, c'est je vais aider ceux qui sont autour de moi, ça va les arranger finalement.
Ok, et comment tu planifies ton suicide en fait?
Donc tout aussi sereinement, j'envisage un plan, etc., j'en parle pas.
Ça dure combien de temps ce temps de planification?
Il dure quand même quelques mois. Pendant quelques mois en fait j'ai jamais été au bout de mon idée, dans le sens où j'ai jamais défini vraiment tel jour, telle heure, je vais mourir de telle façon. Mais par contre, je savais qu'à un moment, j'allais devoir prendre cette décision. Mais là, j'en étais juste arrivée à me dire, cette vie-là, je ne veux plus la vivre. En fait, j'avais même un peu hâte de plus vivre la souffrance, en fait, que ça s'arrête et puis que voilà, c'est tout.
Il n'y avait personne à qui tu pouvais parler dans ton entourage?
Non.
Et Jésus, tu lui parles encore?
Ben oui, plus jeune, je parlais à Jésus. Là, à ce moment-là, je lui parlais plus. J'avais plus de. En fait, ma colère avait pris le dessus sur notre relation et je lui parlais plus. Et puis, c'était une période où on avait déménagé à Paris. Ma maman travaillait beaucoup. Autour de moi, j'avais pas tellement de famille.
Assez seule, ouais.
J'étais seule.
Ta colère, parce qu'on dirait que ta colère, elle était vraiment refoulée. C'est plus simple.
Vraiment.
Ouais. Mais le sentiment de colère était là, mais il ne s'exprimait pas.
C'est ça. Okay. Ouais. C'est exactement ça. C'est que je pense que de l'extérieur, on ne voyait pas que j'étais en colère. Mais en fait, moi, je l'ai compris plus tard que c'était de la colère. Mais en fait, je m'auto-détruisais vraiment le fait de ne pas manger, de marcher des heures et des heures et des heures pour perdre du poids.
C'est une forme de
maltraitance.
Mais c'est ça, de maltraitance.
Oui, de maltraitance envers moi-même, complètement. Et puis, je me sentais en colère vis-à-vis du monde entier, en fait. Mais je ne sais pas, c'est comme je ne pouvais pas l'exprimer.
Mais ça, c'est important de le dire, que des femmes, tu sais, des fois, quand tu vis ça, il y en a qui vont l'exprimer beaucoup. La bouche va parler, je suis en colère. Mais des fois, pas parce que tu ne l'exprimes pas que la colère n'est pas là. Et dans ton cas, l'entourage, ça devait être difficile de voir. Parce que quand c'est tout réprimé, mais on n'a pas l'impression que les gens, ils souffrent. Mais des gens, ils souffrent autour de nous, même si ça ne se manifeste pas. Et ça, c'est important dans ton témoignage. Parce qu'on t'entend parler tout doucement, mais déjà, d'avoir ces pensées noires-là, c'est toute une peine, c'est une douleur non exprimée. Ou en tout cas, ouvertement aux autres. Il faut être attentif aussi aux gens autour de nous.
Oui, c'est ça. Et puis, en plus, je pense encore plus dans nos milieux chrétiens, où on apprend que pour être un bon chrétien, il faut être dans la joie, il faut être dans la paix. En fait, c'est comme des fois, on n'a pas le droit de vivre l'épreuve, parce que on n'a pas le droit de vivre non plus les émotions, ni la colère, parce que on doit tout le temps sourire et tout ça. Enfin, en tout cas, moi, à cette époque-là, c'était un peu l'idée que j'en avais, que si on est chrétien, on ne peut pas être dans la souffrance, parce que Jésus est là. Et en fait, tout ça, c'est des fausses croyances que moi j'avais, qui sont fausses, vraiment. Mais c'est ça qui fait que j'exprimais pas, en fait. Parce que je voulais pas je voulais pas paraître en colère, déjà. Je voulais pas blesser les gens autour de moi. Puis, en plus, il aurait fallu que j'explique pourquoi j'étais en colère. Et je l'avais jamais fait. Ouais. Donc, c'était tout un tas de raisons qui fait que je voulais pas... je parlais pas. Et je faisais bonne figure.
Mais ce qui est triste tellement aussi, c'est de voir que ta souffrance, elle est dirigée contre toi en voulant ne plus vivre, et non vers ceux qui t'ont fait du mal, parce que c'est à eux. Tu n'avais pas le goût de dénoncer ou de faire quoi que ce soit, ou tu étais...
Non, puis j'y pensais même pas.
Okay.
Parce que... En fait, moi, ma vie était juste vraiment inutile, et puis c'était comme normal.
Tu avais vraiment abîmé.
Parce que... Vraiment, ouais. Je crois que mon estime de moi-même là, a été au plus bas. Je pense qu'il y avait une échelle là, j'étais même à moins.
Donc là, ça faisait plusieurs mois que tu pensais, en tout cas, ça s'était arrêté. De toute façon, ta vie allait s'arrêter dans pas si longtemps que ça.
C'est ça.
Et tu vivais avec cette idée-là. Et étrangement, tu étais très en paix aussi avec ça, parce que c'était la solution pour toi, pour tout le monde. Et il y a un changement de programme.
Oui. Alors du coup, dans ma fin programmée, j'avais un petit copain à l'époque, mais vraiment, on était ensemble, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais à un moment où moi, je pensais vraiment mourir. Donc pour moi, j'avais plus j'avais plus d'engagement vis-à-vis de personne. Et je couche avec lui. Et en fait, donc j'ai 16 ans. Et en fait, immédiatement, je sais que je suis enceinte. Et ça répond en fait à une prière que j'ai faite, la seule prière que j'ai faite, la seule fois où je me suis adressée du coup à Jésus
dans cette
période-là, c'était moi je m'en vais mourir parce que vraiment je pense que tu t'es trompée avec moi. Mais si jamais c'est moi qui me trompe, montre-moi que ma vie elle est utile. Et puis que t'as quelque chose prévu pour moi parce que là tout de suite je vois pas.
Mm-hmm.
Et donc voilà, je fais cette prière très courte et très simple, ma foi. Et au moment où je le dis, en fait, je pense même pas qu'il va y répondre. Moi, c'est un peu la prière du désespoir, la dernière prière que je fais, quoi, avant de mourir. Et puis, là, à ce moment-là où je sais que je suis enceinte, en fait, c'est même pas. J'en suis convaincue. Il y a rien qui pourrait. Je le sais. J'ai pas de test. J'ai rien, mais je le sais. Et c'est comme Dieu me dit. T'as un avenir, j'ai prévu quelque chose pour toi. Et là, tout de suite, déjà, tu vas prendre soin de ce bébé. Et il fait partie de ton avenir. Parce que moi, j'ai prévu un avenir pour toi. Et pour moi, c'est vraiment un miracle. C'est mon miracle. Et je sais que ce bébé, il est envoyé par Dieu. Ce bébé, il vient me sauver aussi. Et il vient me donner une raison de vivre. Donc, je m'accroche vraiment à ça. Je préviens toute ma famille. Bon, là, j'ai 16 ans. Donc, ils ne le prennent pas forcément bien.
Mais tu vois, c'est ça qui est un peu fou dans toute cette histoire. Tu vois, dans une vie normale, tomber enceinte à 16 ans avec quelqu'un avec qui tu ne comptais pas du tout faire ta vie, tu es en mode « je veux arrêter de vivre de toute façon », on se dit, mais même sans penser à arrêter de vivre, tomber enceinte à 16 ans, ça peut être un moment difficile, rempli de défis. Et pour toi, c'est le tremplin. En fait, c'est vraiment, le moment décisif.
En fait, moi, je sais que c'est Dieu qui me répond, qui me dit « ta vie peut pas s'arrêter là ». Et puis, de toute façon, maintenant, tu peux pas... Parce que si tu te tues, tu tues aussi cet enfant. Donc, en fait, c'est comme... Là, Dieu m'interdit de mourir, en fait. Et donc, je comprends qu'il veut pas que je meure et que c'est moi qui me suis trompée, que j'ai pas compris. Et donc, là, je me remets, en fait, vraiment à vivre. C'est comme tu as dit, un tremplin. Je me dis... d'accord, j'ai rien compris. donc il faut que je continue de vivre. Ça n'empêche pas que je suis toujours en colère et ça n'empêche pas que je suis toujours blessée au plus profond de moi-même et que j'ai beaucoup de...
Mais t'es vraiment heureuse d'être enceinte.
Mais je suis vraiment heureuse d'être enceinte. Et c'est ce que tout le monde ne comprend pas d'ailleurs. Parce que tout de suite, ils me disent... et je comprends pourquoi ils me disent ça. Mais ils me parlent d'avortement, ils me parlent de que je suis en train de gâcher mon avenir. Mais en fait, eux n'ont pas cette perspective de... En fait, j'avais plus d'avenir, j'allais mourir. Donc, en fait, là, juste, t'aurais eu personne à qui parler parce que j'étais plus là. Donc, pour moi, j'entends pas ce qu'ils me disent parce qu'eux savent pas la perspective dans laquelle j'étais. Donc, pour moi, c'est vraiment le début d'une vie avec Dieu où je sais que, finalement, il m'avait prévu sur cette terre, vraiment, et qu'il a prévu quelque chose. Qu'en fait, là, c'est juste que là, pour l'instant, je peux pas le comprendre et je le vois pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est prévu, c'est sûr. Donc du coup je décide de remettre cet enfant à Dieu. Je dis Seigneur, tu feras comme Anne avec Samuel, cet enfant il est à toi, viens m'aider à l'éduquer parce que j'ai que 16 ans là, ça va être compliqué. Et ça a été compliqué, mais toujours ça a été un cadeau vraiment, ce bébé qui est un grand bébé maintenant et qui est d'ailleurs consacré à Dieu, là, qui vient de déménager sur Paris pour servir Dieu. Donc,
wow.
D'ailleurs, il m'a rappelé tout de suite quand j'ai dit « Oh, je veux pas qu'elle parte !» Il m'a dit « Eh, Tu m'avais dit que...
Et je pense que c'est important de faire une pause parce qu'il y a beaucoup de femmes peut-être qui écoutent l'émission et qui ont des pensées de suicide, de dire que ma vie compte pas, que ma vie vaut pas. Peut-être pas exprimée, mais dans leur cœur. Mais de jamais oublier que Dieu, il est au-delà de ces pensées-là. Il y a des projets de paix pour notre vie. Il y a des projets non de malheur, mais de paix. Puis des fois, on pense que notre souffrance, ça va nous libérer de la souffrance, mais ça vient voiler nos yeux que la vie est encore plus grande. Puis comme la Bible dit, tu sais, je choisis la vie parce que j'ai une vie en abondance pour toi, au-delà des blessures, parce que les événements, ils sont vrais, là, ils sont souffrants. Mais tu vois, si tu avais mis fin à tes jours, tu te serais privé de bénédiction, de voir ce que tu fais aujourd'hui, d'être un témoignage pour plusieurs. Alors peut-être quelqu'un écoute l'émission en disant, moi, je me reconnais dans la vie d'Hélène, puis je vois plus ces projets, ces plans de vie que Dieu m'a donné, mais il y a des plans, et ça, c'est un mensonge qu'il faut refuser, et aller chercher de l'aide, et parler à quelqu'un, tu sais, il faut aller...
Je te rejoins complètement. Cette semaine, j'ai regardé un reportage qui m'a beaucoup choquée sur les jeunes, et il y a beaucoup de jeunes qui veulent se suicider, mais incroyable, et parfois pour des raisons beaucoup moindres par rapport à celles que Hélène est en train d'exprimer aujourd'hui, et juste parce qu'il y a un mal-être parfois à l'intérieur qui ne sort pas, on ne le dit pas forcément, mais il y a toutes ces idées noires qui viennent dans la tête, et au final, à 12 ans, il y a des personnes qui veulent en finir avec la vie, à 13 ans, à 14 ans, et c'est important de s'exprimer. C'est vrai que dans le cas d'Hélène, ben, tu as peut-être gardé ça à l'intérieur, mais il faut en parler,
oui,
en fait.
Absolument.
Il faut que ça puisse sortir. Trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un à qui vous pouvez parler, et puis il faut le dire, parce que garder à l'intérieur, en fait, c'est, comme on dit souvent, le diable travaille vraiment avec l'obscurité, avec les choses cachées.
Et des mensonges aussi.
Et c'est ça. Ça va créer des mensonges qui n'ont pas lieu d'être. Et tu vas vraiment croire que tu ne sers à rien, alors que c'est pas vrai. C'est pas parce que tu te sens seul, c'est pas parce que tu sens un vide à l'intérieur de toi que tu ne sers à rien, en fait. Comme Stéphanie, tu disais, tu as un avenir qui est programmé par Dieu et a une espérance. Donc, si cette pensée de suicide, elle vient comme ça t'attaquer, t'as envie de mettre fin à tes jours parce que t'es pas assez parfait comme tu pensais, parce que la vie ne semble pas faire des cadeaux à ton âge, vraiment, revois tes perspectives parce qu'il y a tellement mieux que ce que tu vois aujourd'hui. Absolument. Il y a un avenir pour toi et tu es une source de bénédiction. Il y a trop de jeunes qui n'entendent plus des compliments aujourd'hui, qui ne sont pas valorisés, qui dans l'un des reportages, un jeune disait, depuis qu'on est né, on nous dit que le monde est noir,
et sombre,
est pourri, que voilà, et on n'entend plus en fait des bonnes nouvelles. On entend beaucoup de catastrophes et ça joue sur le mental des personnes plus jeunes. Donc faisons attention, mais il faut le dire et puis il faut pas
chercher de l'aide. Faut le dire. Mais bon, ces pensées suicidaires là, c'est commettre des gestes qui sont définitifs pour une situation qui est temporaire. Et quand tu es sombre, tu as l'impression que la situation, ça va être ça toute notre vie. Et ça, c'est faux, parce qu'avec Jésus, il y a toujours le meilleur, il y a des bonnes choses. En son temps, on n'est pas seul, mais il faut vraiment, comme Aurélie, tu l'as si bien dit, aller chercher, faut dire, faut parler. Et aller chercher peut-être de l'aide aussi médicale. Aussi. Donc ça, c'est important.
Moi, ce que tu as dit, c'est exactement ce que j'ai compris. Quand j'ai compris que Dieu avait un avenir pour moi, il y a ce passage-là dans
Jean
10-10, qu'il y a l'ennemi qui vient pour voler, détruire et tuer. Et c'était vraiment ce qu'il cherchait à faire dans mon esprit, de détruire, de voler, de me tuer. Et en fait, là, c'est comme Jésus qui venait dire sur ma vie, mais moi, je viens te donner la vie et te donner la vie en abondance. Et c'est vraiment aujourd'hui, moi, vraiment le message que je veux transmettre, c'est vraiment de dire... Dieu, il a une vie en abondance pour chacun de nous. Et là où le diable est très fort, c'est que tous ceux qui ont souffert, en fait, ont tendance à s'isoler et à vivre sa souffrance. Chacun la garde pour soi, veut pas déranger, veut pas blesser, veut pas... Et en fait, ça, c'est vraiment le pire, parce que même si on arrive à survivre, même si on va pas attenter à sa vie, en fait, je remarque qu'il y a quand même une forme d'immobilisme. Parce qu'on a survécu, bah déjà, on se satisfait de ça et on va pas plus loin dans sa vie. Et en fait, je trouve ça terrible, parce que Jésus, il a prévu une vie d'abondance pour chacun de nous. Et la vie en abondance, c'est pas ça. C'est pas juste avoir survécu, c'est pas mettre fin à sa vie, c'est pas... On a tous notre place sur cette terre et on a tous une vie d'abondance à vivre. Mmh. Et là, je crois que quand on en est à vouloir finir avec sa vie, c'est parce qu'on a accepté ce mensonge-là du diable. Mmh. Et c'est vraiment faux. Faut comprendre que c'est un mensonge. Mmh. C'est vraiment faux.
Et peut-être, je ne veux pas prendre trop de temps non plus, mais je pense de profiter de l'occasion de les gens autour d'être sensibles aux gens qui vivent ça. Tu sais. Mm. C'est la personne qui à dire, ah oui, j'ai des pensées noires. Oui, quand tu ferais ça? On dit le cas, quand tu ferais ça? Comment tu ferais ça? Où tu ferais ça? Mm-hmm. Pour savoir jusqu'où les gens, et les aider et les à aller chercher de l'aide. Mais je pense qu'il faut vraiment, comme tu dis Aurélie, puis on sait que c'est très anxiogène, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, puis de dire, ben moi, il faut que je sois aussi comme parent, mais aussi comme ami, autour d'être vigilant, puis de dire, est-ce que cette personne-là, elle souffre, puis est-ce que j'entends ce qu'elle veut me dire? Tu sais, c'est pas toujours de la colère, mais juste de dire, oh, moi, j'en finirai avec mes jours. Ah ouais? Mm-hmm. Poser une autre. De ne pas prendre ça comme une phrase qui est lancée.
Même juste l'isolation.
Pas anodin.
Dès qu'un jeune commence à se renfermer, il ne faut pas juste laisser faire.
Il faut poser les questions, il faut oser.
Et pour revenir à ce que tu disais sur le fait que Jésus donne la vie en abondance, il y a cette dimension où on peut avoir du mal à croire que la vie va être plus abondante que la mort. Parce qu'on a vécu tellement de morts, tellement de ténèbres, tellement de noirceur que oui, il va venir donner la vie, mais il y a tellement de morts autour de moi. Mais cette vie en abondance, elle est tellement abondante qu'en fait, elle va venir engloutir les ténèbres, elle va venir engloutir la mort. Et c'est cette vie abondante, c'est pas une goutte de vie que Jésus est venu donner, c'est il a absorbé la mort. C'est la mort n'a pas réussi à gagner. Et en fait, quelquefois, on a du mal à se dire. Mais c'est tellement sombre à l'intérieur de moi et c'est d'ouvrir la petite porte, une petite porte et de dire juste tu donnes la vie. Bah écoute, j'ouvre cette petite porte et en rentrant même par une toute petite porte, Jésus peut venir apporter la vie et la vie en abondance. Et c'est ce qu'il a fait dans ta vie. Ceci dit, avant que même tu puisses, t'as commencé à vivre une certaine vie en abondance, mais il s'est passé un autre événement entre-temps, enfin pas entre-temps, mais à la suite de ta grossesse, t'as eu ta fille, et là t'as appris par rapport aux abus que t'avais vécu quand t'étais plus jeune, que finalement il y avait toute une autre histoire aussi derrière, puis ça a été un gros coup dur.
Oui, donc du coup, cette grossesse a été un tremplin dans ma relation avec Dieu et puis même vis-à-vis de moi-même. Là. Mais sauf que 2 ans après, à peu près, donc je pense que j'avais 18 ans, j'ai appris, en fait, par un hasard vraiment, j'ai appris que les abus que j'avais vécu dans ma jeunesse, en fait, c'est quelqu'un de ma famille qui m'avait vendue. Et quand j'ai appris ça, vraiment, là, c'est comme la colère qui était toujours en moi, hein, parce que j'avais retrouvé une relation avec Dieu et je voulais plus en finir avec ma vie, mais j'étais quand même toujours à l'intérieur très en colère. Là, c'est comme cette colère, elle a explosé.
Elle a explosé.
Et là, je voulais plus entendre parler de Dieu. Mm-hmm. Là, je lui ai dit, je crois en toi, mais vraiment, là, je peux pas croire ça. Enfin, c'était trop pour moi. Et là, j'ai mis fin. C'était la rupture avec Dieu. Je voulais plus en entendre parler. Et donc, pendant 2 ans, j'ai vécu comme ça. Sans Dieu, et ça a été, je crois, les deux pires années, et pourtant je mesure mes mots, mais vraiment les deux pires années de ma vie, parce que là, j'avais même plus d'espoir. C'est-à-dire que, en fait, je savais que... En fait, auparavant, j'avais déjà plus d'espoir, mais là, en fait, c'est comme... Je sentais plus la présence de Dieu avec moi. Et ça, c'était vraiment le pire, parce que jusqu'à présent, toute ma vie, même quand je voulais mourir, j'avais toujours senti Dieu avec moi, quand même. Et là, c'est comme plus rien. Et ça a été vraiment très dur. Et c'est pendant cette période-là que j'ai rencontré mon mari, en fait, quand je faisais la fête et tout ça. Et donc, je rencontre mon mari, je tombe folle amoureuse, on emménage ensemble. Et lui aussi a eu une vie très difficile. Et lui, il est comme très heureux de trouver une famille aussi. Tout de suite, avec ma fille, ça match. Elle l'appelle papa. C'est vraiment... il est incroyable avec elle. Elle est vraiment... elle l'aime vraiment beaucoup. Elle est le papa qu'elle attendait depuis longtemps. Donc... en fait, je découvre l'amour avec lui. Alors, on s'aime mal, parce qu'on est tous les deux très blessés par la vie. Mais, petit à petit, on arrive à s'ajuster. En fait, on s'aime tellement qu'on y arrive quand même. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de quelques années, donc on a emménagé ensemble et tout ça, c'est comme Dieu revient me chercher là. Et je me lève un matin et je veux renouer avec Dieu. Je me dis, je comprends toujours pas pourquoi tout ça s'est arrivé. Je suis toujours en colère, je suis toujours blessée, mais je peux plus vivre ma vie sans sa présence.
Un matin, tu te lèves.
Un matin, je me lève.
Et au bout de 2 ans, tu te lèves, c'est le jour.
En fait, ça me trottait déjà, mais j'avais pas posé d'action vis-à-vis de ça. Donc un matin, je me lève et puis vraiment, je décide de renouer avec Dieu, quoi.
Tu en avais déjà parlé
Jamais.
Ah ok, d'accord. C'était la surprise.
Voilà, c'était la surprise. Non, jamais. Donc là, je lui en parle. Grosse colère. Voilà. Mais en fait, je prie et vraiment, je prie pour que savoir quelle est la volonté de Dieu. Et Dieu me montre très clairement qu'il va se convertir, et donc je lui en parle et il se convertit.
Mmh. Attends, on revient au moment quand même, tu te lèves, là tu décides de renouer avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Dieu? Parce que il y a ces années de colère refoulée, après d'éloignement complet, et là tu reviens. Qu'est-ce que tu vis avec lui? Qu'est-ce qui se passe?
En vérité, je suis toujours en colère. Je comprends toujours pas. Mais je peux plus vivre sans Dieu, tout simplement. Et donc, je décide de... En fait, je deal un peu avec Dieu en mode, bon, je reviens parce que je t'aime et que j'ai envie. Je peux pas vivre ma vie sans toi, en vrai.
Mais on a quand même des choses à régler.
Un moment, on va s'expliquer quand même. Donc, en fait, je décide de revenir, mais je sais que j'ai plein de choses à mettre en ordre dans ma vie. Et puis, moi, je veux pas vivre la vie que j'ai vécue auparavant. Moi, je veux cette vie en abondance là dont il m'a parlé précédemment et que j'ai toujours pas. Donc en fait, c'est pour ça. Je décide de revenir à lui. Je dis, Seigneur, maintenant, je veux te servir et je veux te suivre et je veux faire ce qu'il faut. Mais viens remettre de l'ordre dans ma vie vraiment. Et donc à partir de là, en fait, c'est comme il va prendre ma vie en main là. Et finalement, je crois que j'ai jamais eu les réponses des pourquoi et tout ça. Mais petit à petit. En fait, il m'a proposé un chemin de guérison auquel j'ai répondu oui. Et donc, je suis entrée dans un processus de guérison avec Dieu. Et petit à petit, en fait, il m'a guidée. Et c'est un chemin qui est très long, la guérison. Parce que par la guérison aussi, vient aussi le pardon, la question du pardon. Et ça, c'est très compliqué. Parce que je crois qu'on ne peut pas vraiment guérir si on ne pardonne pas. Et pourtant, c'est tellement difficile de pardonner certaines choses. Et même les gens à qui on va parler ou quoi, ils vont nous dire « mais c'est impardonnable, tu peux pas pardonner ça ou ça ». Et pourtant, c'est ce que nous demande Dieu. Et puis je pense que vraiment, pour nous-mêmes, c'est très important, on peut pas faire sans. Donc c'est un chemin dans lequel je m'engage là, et qui va prendre tellement, tellement, tellement d'années. Je crois que j'ai pas terminé encore, mais en tout cas... J'ai bien avancé là, j'espère. Mais en tout cas, c'est un chemin vraiment, je pense, qui est vraiment nécessaire pour toutes les personnes qui ont souffert. Et je pense que tout le monde a souffert à un moment dans sa vie. La guérison, c'est une décision, en fait. Ça arrive pas comme ça. C'est du travail, c'est des efforts. Ça nécessite de revenir sur des choses qui sont douloureuses. C'est dur.
Puis le pardon, tu l'as dit, tu sais, c'est un processus, c'est un cheminement. Des fois, tu dis, c'est impardonnable. C'est peut-être pas pardonnable en 24 heures, et ça, c'est certain.
C'est ça.
Mais c'est ce fameux processus, puis de savoir qu'est-ce que c'est le pardon exactement, puis ce que le pardon n'est pas, tu sais, hein? Pardonner, c'est pas tout accepter. On a déjà parlé à des émissions, mais c'est important de dire oui. Le chemin du pardon, c'est le chemin de la guérison. Mais il y a toute une compréhension du pardon aussi qui est importante. Donc tu dis, comment je peux pardonner tout ça? Et pourtant, c'est la clé de sa libération.
Oui, c'est ça. Et puis en fait, il y a plusieurs formes de pardon. C'est-à-dire qu'il y a le pardon classique, on va dire, quand la personne vient nous demander pardon. Je dis pas que c'est facile de pardonner là, mais déjà c'est plus facile parce que la personne reconnaît ce qu'elle a fait, les torts qu'elle a, le mal qu'elle a causé, et quand c'est un pardon sincère, quand c'est une demande de pardon sincère. Donc, c'est le chemin classique, on va dire, de pardon, et qui est déjà pas facile à entreprendre. Mais quand personne vient demander pardon, parce que soit la personne n'est pas là, soit qu'elle reconnaît pas, soit qu'elle est décédée aussi, là, c'est encore plus difficile, parce que là, il y a comme personne qui reconnaît l'injustice. Et moi, dans mon cas, j'ai pas pu aller en justice et tout ça. Parce que c'était trop tard, enfin il y avait tout, et c'est comme personne n'a reconnu l'injustice que j'ai vécue. Et dans mon chemin de guérison, à un moment il a fallu que je libère la parole, et donc il a fallu que j'aille dire ce qui m'était arrivé depuis toutes ces années et puis expliquer tout ça. Et ça a été très dur pour ma famille. Et il y a un moment où je me suis sentie coupable parce que j'avais l'impression de faire souffrir ma famille. Et en fait, j'ai dû remettre les choses dans le bon ordre. Donc ça, la relation d'aide et tout ça m'a bien aidée. J'ai pas trouvé toute seule toutes ces réponses-là. Mais en tout cas, de remettre les choses dans le bon ordre, c'est pas moi qui détruis ma famille, c'est ce qu'on m'a fait qui a détruit en fait ma relation avec un tel, les choses qui m'a détruit à moi, qui fait du mal en fait. C'est pas moi en libérant la parole. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que je crois que plein de gens s'empêchent de dire les choses parce qu'ils ont peur de briser quelque chose. Mais en fait, c'est déjà brisé. C'est juste de le dire, ça va pas briser davantage, c'est juste ça va mettre en lumière quelque chose qui est déjà brisé. Et ça me rappelle qu'avant de venir ici, en fait, j'ai raconté à mon grand garçon qui était pas au courant. C'était le dernier de la famille parce qu'il est encore petit, mais là maintenant il a 12 ans. Et je voulais pas venir ici le dire comme ça devant tout le monde sans que lui sache. Alors, je suis pas rentrée dans les détails là, mais en fait je lui ai dit voilà, je vais aller à une émission. Puis je lui ai expliqué un petit peu ma vie parce que j'ai beaucoup souffert. Voilà, voilà. Et en fait, après lui avoir dit tout ça, il m'a dit bah maman, merci de me le dire parce qu'en fait ça m'enlève un poids. Et en fait, j'avais pas conscience que. En disant pas les choses, lui, il sentait qu'il se passait quelque chose, mais c'est comme, en fait, même si on dit pas les choses, elles se sentent. Donc, c'est important de dire les choses, de dire les choses. Même si on a l'impression que ça va briser, ça, la guérison passe par là. Et même pour les autres autour de nous.
Donc aujourd'hui, tu es sur ce chemin de guérison et ton mari aussi s'est converti, comme tu nous as dit, et c'est vraiment une belle histoire. Et je veux parler à toutes les personnes qui, justement, ont peut-être été trahies, sont déçues, sont dans une pensée même de suicide dont on a parlé tout à l'heure, ou qui se sentent juste mal, en fait. Et quand on écoute ton histoire, Hélène, on se dit... En fait, Dieu, il est plus grand que nos souffrances. Il est plus grand que les choses par lesquelles vous êtes en train de passer aujourd'hui. Et la porte d'entrée, comme Annabelle a dit tout à l'heure, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ va vous donner la force d'avancer. Il va vous donner la force de pardonner. Il va vous donner la force de guérir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent aujourd'hui. Sachez que Jésus-Christ est là pour vous. Et ça commence juste par lui dire oui. Oui, je veux que tu viennes dans ma vie. Oui, je veux que tu fasses cette intervention puissante. Je veux avoir cette relation avec toi. Je veux te rencontrer. Ça commence par là. Donc si aujourd'hui, vous ne le connaissez pas encore, acceptez juste d'ouvrir votre cœur à celui-là seul qui peut y amener la vie, qui peut vous toucher, qui peut vous guérir aujourd'hui, quel que soit le niveau de votre souffrance, et est disponible aujourd'hui pour vous. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui, dites-lui juste, Seigneur Jésus, viens. Viens, je veux te connaître comme ce sauveur, je veux te connaître comme ce Seigneur. Et alors que vous l'invoquez, vous l'appelez ainsi, eh bien, il va transformer ces choses. Sa vie va s'imprégner à l'intérieur de vous et votre vie ne sera plus jamais la même. Donc, envoyez-nous votre témoignage. epcitv.com/témoignage. Si vous avez accepté de suivre Jésus, mais il nous ferait plaisir de le savoir. Et là où vous êtes, on vous encourage aussi à aller dans une église locale. Pourquoi pas? Et on croit que de belles choses aussi vont se passer de ce côté-là.
Amen. Merci. Merci Hélène d'avoir partagé ton témoignage. Plaisir. Et puis on se réjouit encore une fois de tout ce que Dieu a fait et va faire dans ta vie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.